VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est midi à Kinshasa, bonjour à tous. La dépouille de Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise, est arrivée ce matin à Kinshasa, où des officiels et une foule immense sont venus l'accueillir. Le premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo et le président de l'Assemblée nationale Aubin Minaku étaient présents à la descente d'avion du cercueil blanc recouvert du drapeau de la RDC et suivi par un prêtre catholique. Le ministre ivoirien de la Culture avait personnellement accompagné la dépouille pendant le voyage. Le cercueil a été ensuite conduit à l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa dans un cortège encadré par la police. Le gouvernement congolais avait mis en garde hier contre toute récupération politique de l'événement. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a vivement condamné le nombre croissant d'attaques contre des hauts responsables au Burundi. Les détails, Nani Talani.
Le responsable onusien cite notamment l'assassinat du brigadier général Athanase Kararouza et de sa femme lundi dernier, ainsi que la tentative d'assassinat contre le ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, Martin Niviabondi, le 24 avril. Zeid Ra'ad Al Hussein estime que ces violences doivent faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme et que leurs auteurs doivent être arrêtés et traduits en justice. Selon l'ONU, 31 personnes ont été tuées au cours d'attaques en avril. La grande majorité de ces attaques a été menée par des hommes armés non identifiés. Le haut commissaire aux droits de l'homme dit craindre que le nombre croissant d'assassinats ciblés n'aboutisse à une aggravation de la spirale de violence. Il a appelé toutes les parties à prendre part au dialogue prévu lundi à Arusha en Tanzanie afin de trouver une solution durable à la crise burundaise.
Au Tchad, l'opposant Laoken Kourayoumeda et maire de Moundou, candidat malheureux à la dernière présidentielle, dénonce une chasse aux sorcières orchestrée par le régime de N'Djamena contre son entourage. Le témoignage de Laoken Kourayoumeda.
Après la publication des résultats provisoires par la CENI, l'Agence nationale de sécurité, autrement dit la police politique, s'est mise à la chasse aux sorcières, enlevant, arrêtant, brutalisant nos militants. Beaucoup ont eu la vie sauve en se sauvant du côté du Cameroun. D'autres, tels que les Diondadi, les Idriss Ramadan, les Mahamad Mbodou, ont été arrêtés par cette police politique pour être torturés pendant des heures avant d'être libérés. Deux de nos militants ont été enlevés le dimanche à 100 km de Moundou, la ville économique du Tchad, et ceux-là sont portés disparus. Donc, nos militants sont en danger. La ville de Moundou également est en danger.
Laoken Kourayoumeda, maire de Moundou au Tchad. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a écarté hier toute idée de démission alors que des manifestants dans les principales villes réclamaient son départ. Chérubin Dorsil.
À Johannesburg, au Cap et à Durban, des centaines de personnes se sont rassemblées à l'appel de l'organisation de la société civile pour réclamer sa démission. Le changement doit arriver dans le respect de nos institutions démocratiques, a lancé Jacob Zuma devant des milliers de supporters à Guyeni, dans le nord du pays. Nous avons travaillé dur pour construire ce pays. Il ne peut pas être détruit par des anarchistes, a-t-il ajouté, en référence aux menaces de recours à la violence lancées par Julius Malema, le bouillant transfuge de l'ANC. À 3 ans de la fin de son second mandat, Jacob Zuma est au cœur de plusieurs scandales. Fin mars, la justice a jugé qu'il a violé la Constitution en refusant de rembourser une partie des 20 millions d'euros utilisés pour rénover sa résidence privée. Les élections municipales prévues le 3 août seront un test pour l'ANC et le président sud-africain.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Sahara occidental, depuis l'expulsion en mars par Rabat de 84 membres civils de la MINURSO, les relations entre le Maroc et l'ONU ont pris une nouvelle tournure. Le Maroc propose depuis près de 10 ans un plan d'autonomie pour le Sahara occidental, tandis que les indépendantistes du Polisario, soutenus par l'Algérie, réclament un référendum d'autodétermination. Pour le professeur Mamadou Diouf, il serait indispensable de ramener la Mauritanie dans le débat. Joint par Nathalie Bage, il rappelle d'abord le poids du front Polisario dans la crise.
Le front a un poids important parce que le front reste en fait l'organisation reconnue comme représentative en fait du peuple sahraoui. Et c'est cette organisation aussi qui a mené la bataille pour la décolonisation contre l'Espagne et en train de mener la bataille contre le Maroc. Le problème qui se pose, c'est que dans la recherche d'une solution, il faudrait ramener la Mauritanie dans le débat. Si vous vous rappelez, quand les Espagnols ont décolonisé le Sahara, les Espagnols ont en fait divisé le territoire en deux, en disons attribuant une partie au Maroc et l'autre à la Mauritanie. Mais la Mauritanie n'est pas arrivée, si vous voulez, à contrôler ce territoire. Au contraire, à cause de la proximité entre les Sahraouis et une partie de la population mauritanienne, les Sahraouis ont été à deux doigts, en fait, de prendre le pouvoir en Mauritanie même. Et le Maroc est intervenu dans ce débat et a occupé l'ensemble du territoire pour éviter une Mauritanie élargie qui pèserait sur le Maroc qui s'est attribuer une partie du Sahara. Donc le problème, vu la proximité entre la population sahraoui, proximité ethnique si vous voulez, et la population mauritanienne, il serait indispensable de ramener la Mauritanie dans le débat.
L'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahara occidental a déclaré qu'une étincelle pouvait provoquer un feu de forêt. Y a-t-il un tel risque actuellement ?
Objectivement, le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est un soutien encore plus affirmé de l'Algérie au front Polisario et une décision politique prise par l'Algérie de créer une situation encore plus difficile. Le problème qui se pose, c'est que les données ont tellement changé dans cette région, en particulier à propos de l'émergence ce qu'on appelle les islamistes, ce qu'on appelle les terroristes dans cette région du Sahel, qui est une région qui s'est considérablement transformée ces 15 dernières années. Et le fait que l'Algérie, après être passée de crise en crise durant ce qu'on appelle la décennie noire, les années 90, je ne pense pas que vraiment l'Algérie est aujourd'hui en position d'une confrontation directe ou indirecte avec le Maroc, d'une part, et d'autre part, je ne pense pas, avec la crise libyenne aujourd'hui et ses conséquences sur l'ensemble de cette région au nord et au sud du Sahara, que les puissances occidentales soient prêtes à créer un autre front de conflit.
L'historien Mamadou Diouf, directeur de l'Institut d'études africaines à l'Université Columbia de New York. L'envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie veut revitaliser avec l'aide de Washington et Moscou le cessez-le-feu en grave danger dans ce pays, avec notamment l'intensification des bombardements sanglants dans la région d'Alep. Dans le nord, Stéphane de Mistura a indiqué avoir recommandé au Conseil de sécurité d'organiser dans un futur proche une rencontre du groupe international de soutien à la Syrie composé de 17 pays et co-présidé par la Russie et les États-Unis. Le troisième round de négociations qui avait commencé le 13 avril s'est achevé hier à Genève sans aucun progrès, puisque les principaux représentants de l'opposition ont quitté la table pour protester contre la dégradation de la situation humanitaire et les violations de la trêve. Le candidat à l'investiture présidentielle républicaine aux États-Unis, Ted Cruz, a jeté hier son va-tout en nommant Carly Fiorina comme colistier afin de reprendre l'initiative contre le favori Donald Trump, qui a remporté une série de victoires aux primaires. De son côté, Donald Trump a prononcé à Washington un discours de politique étrangère dans lequel il a repris le slogan des isolationnistes opposés à l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. « L'Amérique d'abord sera le thème majeur de mon administration », a déclaré le leader républicain dans la course à la Maison-Blanche. Et puis en Turquie, la police tentait jeudi d'identifier la femme qui s'est fait exploser la veille sur un site historique de Bursa, faisant 13 blessés. La police antiterroriste a arrêté 12 suspects dans 4 villes. La kamikaze est une femme qui a été déchiquetée en déclenchant l'engin explosif qu'elle portait sur elle, a déclaré mercredi le premier ministre turc Ahmet Davutoglu. Et puis, pour finir, la Corée du Nord a subi un nouvel échec en tentant pour la seconde fois en 2 semaines de lancer ce qui semblait être un nouveau missile à moyenne portée. D'après Séoul, le Nord a tiré ce qui semblait être un missile Mosudan à partir de Wonsan sur la côte orientale, mais l'engin a rapidement disparu des radars. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera avec Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.